Bonjour à tout le monde, merci à vous de m'avoir sollicité. C'est un cadeau pour moi d'être là parce que j'ai l'impression de plus recevoir que donner, étant donné que j'apprends beaucoup de choses et je repars toujours avec beaucoup de questions et des envies d'approfondissement, de recherche et de contact. Donc j'ai grand plaisir à être là et à retrouver certains d'entre vous que je connais et aurai plaisir à mieux connaître ceux que je ne connais pas encore. Cet après-midi va être très riche. Ce que nous vous proposons dans un premier temps, c'est deux interventions. Dans un premier temps, M. Andrés Berra, qui va nous faire une intervention sur le traitement des drames psychotiques, comment on dit, des psychotraumas, dans le cadre des guerres. Ce sera passionnant. Monsieur Berra a un parcours impressionnant, vous avez ça dans les biographies, mais ce qu'il est important peut-être de retenir, c'est que c'est un ancien délégué du CICR qui est intervenu dans plusieurs conflits. Il a été exposé à des situations diverses dont il a tiré des leçons et des apprentissages qu'il va partager avec nous. C'est un homme qui a les pieds sur plusieurs continents. Il a grandi au Venezuela, a fait ses humanités, ses études de médecine au Venezuela. Sa spécialité, ses spécialités en santé communautaire, santé rurale, à l'Université de Laval au Canada. Et il s'est accordé à un moment de sa vie, à un moment de congé sabbatique, et il n'a pas pu résister à consacrer ce repos à plus d'apprentissage, puisque je crois comprendre qu'il s'est inscrit en université à Sydney en Australie et qu'il a approfondi ses connaissances en matière d'humanité médicale. Je ne savais pas que ça existait dans la formulation française. Et en santé mentale forensique, il n'y a pas de traduction en français de forensique, donc deux spécialités qui ont enrichi son savoir et dont il va nous partager l'essentiel. Il interviendra pendant 25 à 30 minutes et on gardera un moment les questions que nous aurions à l'esprit pour permettre à Monsieur Stéphane Schumann d'intervenir. Lui, il interviendra sur le thème d'un médecin et une infirmière allemande dans la guerre russo-japonaise. Monsieur Schumann est bavarois, il réside à Berlin, il vit entre l'Allemagne et le Japon. Et la Chine, pardon.
Je suis neutre.
Donc il écoute, vous écoutez tous. Donc, et la Chine, pardon de cette erreur, c'est un journaliste, un auteur, il a écrit sur la Croix-Rouge allemande. Je crois d'ailleurs que Roger, vous voulez nous dire quelque chose.
Oui, volontiers. Stéphane Schumann a déjà fait plaisir de parler en février de
fondateur de la première Croix-Rouge en Turquie. Et bien, cette fois-ci, il nous fait l'honneur de nous parler d'un autre événement tout à fait extraordinaire qui aura lieu sur les côtes du Japon. Je signale quand même, et surtout, qu'il vient de publier un ouvrage magistral sur l'histoire de la Croix-Rouge allemande, des origines à nos jours, et que cet ouvrage est sorti il y a quelques semaines, quelques jours, et que si vous voulez l'acquérir, il y en a encore quelques exemplaires à la table pour un prix qui défie toute concurrence. Mais surtout, c'est un ouvrage extrêmement intéressant, nouveau, et donc qui atteste du sens de la recherche, mais aussi du sens de l'écriture, puisque M. Schumann est aussi et surtout journaliste, et je ne peux que vous le recommander.
Alors, profitez de sa présence pour acquérir le livre et avoir un autographe, et éventuellement quelques commentaires et explications, car je crois que le livre est en allemand, mais certainement très précieux.
Bonjour. Pues en trabajo es sobre la interpretación y el tratamiento del trauma de guerra pendant la guerra ruso-japonés. Se te fue dans le cadre de un curso de humanité médicale a Sydney, en Australia. La guerra ruso-japonés es pertinente e importante porque es el equivalente a ce qui était la guerra española. espagnol pour la Deuxième Guerre mondiale. C'était la guerre russo-japonaise. C'est le moment que tous les pouvoirs de ce moment-là, ils ont essayé de participer active ou passivement pour avoir, avoir une meilleure connaissance d'intelligence militaire et parce qu'ils sentaient à quelque part qu'il se venait un conflit plus grand à l'heure. Alors, il est très important et parfois il est un peu méconnu ces guerres, mais la géopolitique c'était du côté japonais un peu qu'il voulait affiancer l'influence à Manchurie. Et puis du côté russe, surtout que le port de Vladivostok il n'était pas fonctionnel à l'époque d'hiver, il voulait avoir le port Arthur à Manchurie, que c'était Dalian, et consolider ses positions-là avec le train transsibérien. Aussi, la guerre de côté russe, il y avait la question qu'il y avait une révolution incipiente en Russie et qu'il voulait, à quelque part, attirer l'attention sur une autre, comme la guerre, le patriotisme, et pour éliminer un peu ce sentiment de révolution qu'il y avait à l'intérieur de l'accord d'Ussar. Oui. Il a commencé à préplusser attaque navale, terrestre, mineure. C'était la chute de Port Arthur, c'est un des événements qui était le plus connu de cette guerre-là. La chute de Port Arthur s'est passée par la violation de toutes les conventions de Genève. Ils sont tirés sur les bateaux qui avaient les signes de la Croix-Rouge, ils sont tirés sur les trains, les wagons qui avaient les signes de la Croix-Rouge qui, quand il a évacué Port Arthur, ils sont tirés surtout sur le train. Alors les japonais et les russes ont été appelés sur la qui devraient se comporter comme des nations civilisées, ils ont accepté à quelque part d'être d'être observés. Il y avait des observateurs dans ces guerres. La Grande-Bretagne, les Britanniques, malgré qu'ils étaient officiellement neutral, ils sont appuyés à quelque part avec son intelligence les japonais parce qu'ils pensaient que Vladivostok Port Arthur ça donnerait trop d'influence au côté russe. Alors, mais ils avaient des observateurs à l'intérieur de la guerre dans lesquels on a aujourd'hui des sources primaires sur ce qui s'est passé à l'intérieur du front russe, parce qu'ils sont pas mal de reports qui aujourd'hui nous parlent, c'était déclassifié parce que c'était des rapports secrets qui on peut consulter aujourd'hui. La modalité de guerre et stress, qu'est-ce qu'il y a dans cette guerre qui elle est complètement nouvelle? Il y a de nouvelles technologies qui apparaissent. C'est la guerre de tranchées. Les bombes à Franel c'était déjà dépassé, mais les Japonais ont continué à les utiliser parce qu'il avait un effet moral. Il décourageait avec les bruits, décourageait le contraire. Pour les Russes, avoir ce bruit, ça avait un effet moral plutôt que parce qu'il avait les bombes sans fumée, que c'était la nouvelle technologie. Et alors, ça aussi donné de l'incertitude parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'il venait l'explosion. Et un truc assez particulier de cette guerre, c'est la suicide d'infanterie, le Banzai, que c'était le prédécesseur du kamikaze. Le Banzai arrivait tout d'un coup, ils arrivaient comme des hordes, ils étaient prêts à mourir pour leur empire. Ce qui n'était pas le cas des Russes qui étaient un peu plus démoralisés et pas prêts à mourir par les arts. Comment se déroule dans la guerre russo-japonaise le déroulement de une création d'une unité de Sikrati du côté russe? Dans ce cas-là, on va faire la partie terrestre du côté russe seulement. Après la retraite de Port Arthur, que c'est aujourd'hui Dalian, il y a la front de guerre, se va déménager à plusieurs endroits. Mais Mukden, ça va être un endroit entre Harbin et Port Arthur, où se va dérouler la plupart de combats. Et avec l'arrivée de la locomotive, le train transsibérien, les Russes pouvaient arriver. Il y a plusieurs médecins, plusieurs volontaires qui ont pu se déplacer. Mais apparemment, la information qui est arrivée, c'est que le train transsibérien, après le Baïkal, il était interrompu, il continuait après le lac Baïkal, au milieu de la Sibérie, il continuait jusqu'à jusqu'à Harbin et à Port Arthur, mais il pouvait transiter seulement d'un côté, pas des deux côtés en même temps. Il n'était pas fini à ce moment-là. L'arrivée des psychiatres, quand on parle de psychiatres, on parle de professionnels qui avaient des connaissances de psychiatrie. La psychiatrie n'existait pas en tant que discipline. Ce moment-là en Russie, c'était incipient, c'était rudimentaire, il n'était pas considéré soit par les médecins pas très professionnels, c'était une sorte de pseudo-science qui s'accrochait un peu à la neurologie, à la médecine interne, et ils sont arrivés à Harbin en profitant les trains transsibériens. Ils ont travaillé sur les services de médecine interne à l'hôpital de l'armée à Harbin. Normalement, les gens de la psychiatrie militaire ont convaincu d'avoir quelques services psychiatriques par l'expérience allemande dans la guerre de Crimée. C'est ça qui a fait l'exposition des motifs pour essayer de voir qu'on va avoir besoin de ça ici, les psychiatres militaires. Mais les psychiatres volontaires qui sont venus, ils n'étaient pas des militaires, c'était des civils qui étaient à Moscou et qui avaient quelques connaissances et qui pensaient que les émotions jouaient un rôle sur la guerre. Après, ils ont créé un hôpital de la Croix-Rouge russe parce que l'hôpital de médecine interne était débordé complètement, il y avait trop de monde. Alors ils ont créé un hôpital de campagne pour que les services de médecine interne pouvaient travailler mieux. Et après, quand de plus à mesure que l'hiver est arrivé, parce que c'est en 1905, ils ont créé une unité avancée à Mukden, là où ils faisaient la retraite avec les blessés. Parce que les blessés c'était la priorité, mais aussi ces personnes-là qui paniquaient sur le front de guerre. Il y a une terminologie qui s'est appliquée à cette époque. Les mots stress post-traumatique, les postérieurs et shell shock, j'ai entendu que c'est aussi après. C'était introduit par les Anglais, mais on parlait de épuisement nerveux quand la personne était évacuée, que c'était une situation chronique, et névrose traumatique, c'était une terminologie qui s'utilisait aussi. Mais on va voir, la névrose traumatique s'utilisait dans le sens de Raywell Spine, que c'est un traumatisme psychique qui arrivait à l'époque que le train était créé. Alors beaucoup de personnes, comme quand il avait un choc, une collision, il ne s'était pas sécurisé, les gens arrivaient à avoir des traumas au train et ils appelaient ça la névrose traumatique. Comme beaucoup d'évacuations arrivaient au train, il y avait aussi des cas de névrose traumatique qui s'utilisaient à cette époque. Les courants de médecine européens qui ont influencé les Russes, c'était le débat nature-nocturne, l'ombroso qui considérait plutôt que c'était génétique, la biotypologie la biotypologie du criminal, que c'était la nature, et l'autre était plutôt la nature, magnan. Alors la plupart des psychiatres russes, soit militaires, soit civils, étaient du côté magnan, qui les émotions, la société, avaient un rôle sur la maladie mentale. Mais il y avait à Saint-Pétersbourg un militaire qui supportait la thèse de l'ombroso, que c'est que tout ce qui est subversif, tout ce qui est génétique, et c'est lié. Non, les courants de psychiatrie européenne qui ont influencé les psychiatres russes étaient l'école parisienne et l'école de Leipzig. L'école de Leipzig a influencé surtout la psychiatrie militaire à Saint-Pétersbourg. Et la qui s'était surtout militaire et la psychiatrie civile avait plutôt l'influence de Pinel, de Janet, parce que beaucoup de psychiatres russes, comme Serbsky, Korsakov, ont visité beaucoup l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Alors, ils savaient que les émotions jouaient un rôle sur le trauma et soutenaient cette thèse-là, les psychiatres russes. Ce sont les deux instituts, l'Académie militaire à Saint-Pétersbourg et la Clinique universitaire de Moscou. L'une a influencé plus les militaires, l'autre a influencé plus les psychiatres civils à cette époque de la guerre. Le développement interne de la médecine russe. Normalement, c'était très peu développé, mais dans l'époque de l'essar Alexandre, que c'était un des essar réformistes, il y a la création de les unités Semstovo, que c'était unité très avancée pour essayer de développer l'éducation et la santé rurale dans la Russie arriérée, la Russie rurale. Alors, les Semstovo s'étaient considérés en général par la famille Romanov un mouvement subversif. c'était considéré des gens qui n'aimaient pas les arts, qui étaient contre, qui étaient liés tout à les mouvements subversifs. Mais c'était une époque qui la médecine a profité et la psychiatrie pour se à niveau urbain ou à niveau rural pour se développer. La psychiatrie russe, pas seulement s'est agrandie sur l'Europe, il a eu des développements endogéniques qui sont eu. Le travail de Korsakov, un des pères de la psychiatrie russe, était en alcoolisme, était très connu et était une référence à niveau mondial à cette époque. Et Sersky soutenait la thèse que la plupart des maladies psychiatrique, c'est une maladie sociale et qui avait une origine sociale, ce qui l'a fait très populaire au mouvement révolutionnaire en Russie. Okay. L'argument, le point de vue de mon essai, c'était un essai que j'ai fait à l'Université de Sydney. Il part d'une éthique de bienfaisance, l'éthique de bienfaisance versus le patriotisme. Quand une personne sort, soit un médecin, il sort sur le front de guerre, il a une sorte de double loyauté. Il doit soigner, il doit aussi combattre pour le pays. Alors, il a deux dilemmes. Est-ce que je soigne ou est-ce que je dois être sur l'autre côté? Et parfois, ça crée des dilemmes sur l'indépendance pour soigner. Et ça se mesure un peu sur la perception de les traumatiser, soit comme une personne qui a besoin d'être soignée ou un simulateur. Il est en train, j'ai la peur, je suis traumatisé, je ne vais pas combattre non plus. Et ça s'est utilisé comme une raison. Alors, il y avait des pays qui étaient plus intolérants avec ça et des pays qui étaient plus tolérants. Les Russes de cette époque, la plupart, il avait plus de tolérance chez l'armée russe, ce qui disent la plupart des historiens, en comparaison avec les homologues européens. Cet argument est soutenu par beaucoup d'historiens, Wanke, Sirotkina, Philippe et mon essai aussi. Meridale s'oppose à ce point, c'est un historien américain, mais surtout parce qu'il considérait que comme il avait beaucoup de démoralisation par l'alcoolisme, il avait aussi la question que c'était une guerre qui n'était pas populaire en Russie, c'était dans l'autre front, à Vladivostok, c'est quelque chose que la plupart des gens à Moscou ne connaissent pas. Il avait beaucoup d'arguments pour ne pas lutter. Dans du côté russe, la géopolitique, la posture de l'armée russe, plus ou moins défensive. Mais les 30 ans sibériennes a facilité l'arrivée de ce groupe de volontaires qui ont travaillé avec la Croix-Rouge à l'hôpital de la Croix-Rouge. Et avait beaucoup d'observateurs internationaux dans l'armée à Harbin, parce qu'il se faisait observer du côté japonais aussi, je crois qu'il y avait des observateurs, mais il y en avait beaucoup à l'armée russe. Le témoignage des médecins, les médecins tendaient à rationaliser que le fait d'être dans une tranchée et d'avoir peur, c'est normal. Ils tendaient à normaliser ça. Ça, c'est la description de Dr. Che. C'est en anglais, parce que le Dr. Che a une particularité. Dr. Che, lui était combattant et lui était médecin. Il y avait des médecins qui étaient sur le front de guerre et il faisait des activités doubles dans cette époque. C'est un peu étonnant parce que normalement se sont séparés les services. Il décrit que le docteur il a eu une crise de stress, il a commencé à dire run, courir tout le monde et il comprenait que ses actions n'étaient pas tout à fait correctes. Et après, il avait peur que les Japonais avaient arrivé et il se habillait quand il était à dormir, comme s'il devait partir tout de suite. Il avait une panique, exactement. Mais par contre, quand il était évacué, il trouvait certainement normal qu'il avait eu la peur parce qu'il avait juste un peu plus de peur que les autres, mais que c'était normal pour tout le monde dans cette situation de banzai, de smugglers, de dans une tranchée, beaucoup de temps, c'était normal d'avoir peur. Alors, et ça a été un peu, pas banalisé, mais ça a mitigué un peu la perception de qu'il était perçu comme un coward, une personne qui a peur. D'accord. Par exemple, les médecins, dans la première congrès à Berlin de 1908, ils ont donné beaucoup de témoignages. Vivre avec les tranchées, c'est pas normal du tout. Oui, que la situation d'artillerie produit une confusion, un terror et une panique que c'est complètement normal, disait Jakovic, autre docteur. Le docteur Felsman affirmait que les malades. Que les malades, c'était normal d'avoir panique Y que Panic se tiene un caracteristique de trabajar para pa, pa un coguardiz, para pa, pa un fe de aguar per. Y alors, pues, la plupart de médecins ont donné son témoignage après al Congrès à Berlín de la guerre. L'argument se soutient aussi dans le fait que la chaîne d'évacuation que duré à peu près entre un mois à 40 jours à Moscou, vous imaginez de sortir une personne de Harbin, il avait pas mal dans l'époque d'hiver pour évacuer, parfois il fallait utiliser des skis, les trains, quand il avait les hivers de la Sibérie, ça marchait pas, ça pouvait prendre même plus d'un mois d'évacuer un malade en hiver à Moscou. Y pues cuando se te terrestre a la época que habíamos el ET se aproxé, le te plus fácil de hacer la evacuación, soit par le tren, soit avec de su unité a Chebo, jusqu'à ou l'endroit où il bon se faire soigner. Alors, il avait une chaîne d'évacuation établie qui a changé pendant l'époque et que les malades étaient transférés à la unité de médecine interne. Il y a des données épidémiologiques sur ces guerres qui sont gardées l'épuisement nerveux a représenté plus de 500 cas qui ont été transférés à Moscou. Ça simplement dit ceux qui ont arrivé à Moscou, ça ne veut pas dire ceux qui sont restés sur le terrain. J'ai plus de données sur ça et l'alcoolisme, sur toutes les formes, c'était une des formes d'évacuation les plus grandes dans les statistiques qu'il y a à Moscou. Et dans l'hôpital de la Croix-Rouge à Harbin, ils ont donné des statistiques de que la psychose épileptique représentait un tiers des cas. Ça serait détonné par la situation de bruit, de guerre, de combat. Et la neurose traumatique, qui alors s'entendait par ça, les Raywell, il n'était pas négligeable, il n'était pas une cause fréquente, mais c'était une cause importante, 2-3% des statistiques. C'était à cause d'accidents sur le train à cette époque-là. La neurose traumatique, je vais dire quelque chose après dans l'épilogue avec le puissement de nerfs parce qu'ils ont dit que c'est un variant de stress après à Berlin parce que après le témoignage, plus les médecins ont considéré qu'il s'agissait de la même maladie, mais c'est une autre variant de la maladie. Les soins de santé mentale, oui. La question de l'indépendance professionnelle n'était pas certe pour les médecins qui combattaient l'armée. Par contre, ces psychiatres qui sont infiltrés, ils travaillaient à la Croix-Rouge, ils étaient un peu à côté du service militaire, ils avaient quelques indépendances pour travailler et supporter les traitements des malades. Il savait, tout l'établissement russe savait que les émotions jouaient un rôle dans l'origine du trauma et des problèmes psychiques. Et il s'était familiarisé plus ou moins avec l'hypnose. Le psychoanalyse n'a pas rentré en Russie jusqu'en 1908. Et il y avait quelques corporatismes. C'est-à-dire, à cette époque, que les psychiatres, que ce soit celle de l'armée ou ceux qui sont arrivés comme volontaires, il avait un intérêt à dire psychiatrie matters. La psychiatrie a une chose à dire. Ça c'était un peu la question. Et il y a une autre chose qui favorise l'argument de que il avait un certain intérêt à humaniser la question de la guerre, c'est que la psychiatrie russe, le système n'était pas très rétributif socialement. C'est pas comme la situation en France ou en Allemagne, que si tu étais malade par la guerre, on te va compenser, on va te donner. En Russie, il n'avait pas ça, alors ça n'était pas un incentive à se sentir, à chercher. Autre que d'arrêter de combattre, peut-être, mais pas de rétribution sociale. Les soins de santé à l'époque, plus ou moins les standards, c'était la psychothérapie, que était familiarisé ce psychiatre, l'appui pharmaceutique, les thérapies de travail, les repos, les bendes au chaud, la nourriture améliorée, c'était plus ou moins les standards. Mais 80% de ce travail, ça tombait pas sur le psychiatre, ça tombait sur un personnel qui était innovateur, c'est sur le personnel féminin. C'est un des premiers moments que la guerre admet des femmes sur la... soit sur l'armée, soit sur l'hôpital de la Croix-Rouge, ils ont participé, beaucoup de femmes, ils ont eu un appui assez important pour humaniser la guerre. Les témoignages de la participation féminine, le docteur Barlov a vraiment soulevé la question que ça donnait un soin plus tendre, plus chaleureux pour les malades. Le docteur Gardiaski aussi a soulevé aussi la question de le rôle qu'il avait pour le support pour la dépression et la mélancolie, que c'était fondamental. Le docteur Chunkov, parfois, il disait que une parole d'une femme, parfois, c'était suffisant. Ce que beaucoup de 10 hommes, par la force, ne pouvaient pas faire, ça pouvait faire par les femmes. Alors, la participation féminine, c'était un pays innovatrice. Innovatrice dans cette guerre, et c'était une chose qui est nouvelle dans les soins des personnes qui étaient traumatisées. Intéressant, c'est que dans le premier congrès allemand de la médecine interne à Berlin, beaucoup de ces témoignages de médecins et beaucoup de psychiatres russes ils sont partis à ce congrès-là, et c'était l'opportunité de la psychanalyse pour rentrer un peu en Russie. La cour du Tsar, je ne sais pas si les raisons sont peut-être multiples, mais il y avait l'antisémitisme et les freudiens au début, c'était un mouvement à la question juive centro-européenne. Alors il y avait beaucoup de résistance de Romanov pour le psychoanalyse, mais il a commencé à rentrer sur l'establishment, le congrès allemand chez les Russes. Mais par contre, la psychoanalyse associe beaucoup le trauma à l'hystérie. La hystérie, c'est un diagnostic féminin. Y por un soldado, être appelé hystérique, c'était como être coward, je sais pas comment dit coward en français. Lâche, c'est très lâche, merci beaucoup. C'est un peu lâche, être perdu. C'est arrivé tardif, explique aussi quelques tolérances à la question de stress qui arrivait et à la façon que te géré. À le congrès à Berlin, et c'est la première fois qui se dit, bon, le railway spine, c'est-à-dire la neurose traumatique et l'épuisement nerveux, peut-être c'est la même maladie, mais simplement une variante de la maladie. Mais c'est la première fois qu'ils ont pensé que plusieurs maladies, que c'était appelé comme ça, que c'était la même chose, mais c'est, peut-être c'est une variante. Alors c'est ça qui était intéressant à Berlin dans la guerre. Et tous ces témoignages, on était amené, ce docteur arrivé et on donnait son témoignage, ce qu'ils ont vécu. Alors, et c'est là où la plupart des sources ont été recueillies. Merci beaucoup et je vous remercie pour votre attention.
Merci Andrés pour cette présentation fascinante. On doit résister à poser des questions immédiatement parce qu'on a un sujet du même ordre. On va écouter l'intervention de Stéphane maintenant. Toutes les questions que vous avez à l'esprit, notez-les maintenant pour ne pas les oublier. Et on revient vers Andrés pour plus de dialogue après l'intervention de Stéphane. Merci.
Moi aussi, je souhaite parler de cette guerre qui, à l'époque, semblait extrêmement lointaine et exotique et même bizarre. Mais vu d'aujourd'hui, c'était un conflit pionnier, une prélude de la mondialisation des guerres et des sociétés de secours. Les Hollandais, les Portugais, les Bulgares, les Chiliens, les Finlandais, beaucoup des nations ont envoyé des missions de secours. Et moi, je vais parler surtout de la contribution allemande, qui était substantielle. Je n'ai qu'une image pour vous, mais je l'aime beaucoup. Vers le tournant du siècle, la Croix-Rouge allemande a participé dans toute une série des conflits internationaux et coloniaux, surtout les grandes expéditions dans la guerre des Boers, puis deux missions coloniales en Chine et en Afrique du Sud-Ouest allemand, Afrique allemande du Sud-Ouest, suivent les missions en Extrême-Orient, dont je vais parler maintenant. Et le dernier engagement dans cette série se déroule en Tripolitaine pendant la guerre italo-turque en 1911, qui était le, la première guerre aérienne. Plusieurs fois, on trouve les mêmes protagonistes sur ces théâtres de guerre. Donc, il y a des médecins qui étaient déjà en Afrique du Sud et qu'on retrouve en Chine ou en Sibérie plus tard. Il y a des médecins, des infirmières, il y a aussi des techniciens qui deviennent des spécialistes des missions d'outre-mer. Pour la Croix-Rouge, notamment la Croix-Rouge allemande, ses activités démontrent son importance mondiale. Il devient un global player. Dans l'Extrême-Orient, la Russie et le Japon veulent renforcer leur pouvoir aux dépens de la Chine. Donc c'est là le contexte historique et c'est une des particularités de ce conflit qu'il se passe sur un territoire neutre en Chine, dans la région de la Mandchourie, qui était une sphère d'influence russe, mais pas une colonie russe. Et vu de l'Europe, c'était naturellement au bout du monde, c'était extrêmement loin, même un peu surréel peut-être. Et aussi, c'était un événement incroyable, comme Andrés a déjà montré, c'était un scandale, une nation asiatique considérée sous-développée, inférieure, attaque une grande nation européenne. Donc c'était un choc, c'était une provocation inquiétante pour le Good Old Europe. Selon la Croix-Rouge russe, les premières batailles se déroulent brusquement sanglantes. Les sources allemandes disent unvermutet opferreich. Et dans l'histoire de la Croix-Rouge, qui est un miroir de l'histoire moderne, on entend toujours ce refrain unvermutet opferreich. Il y a toujours beaucoup plus de victimes qu'on a estimées. Chaque campagne, chaque guerre produit ce nombre excessif des victimes, et chaque fois la réaction est la même: on n'a pas prévu ça, hein. Comme dans les grands projets de construction, au moment à Berlin, on a l'aéroport qui n'est jamais fini et qui coûte plus cher, beaucoup plus cher qu'on nous a dit, et chaque fois les officiels ils sont surpris. Donc c'est une structure, c'est un muster, un pattern. Et plus ça change, plus ça reste la même chose. Plusieurs sociétés de secours offrent leur soutien aussi à la Russie, en Russie, qu'en Japon. Et la Russie les accepte volontiers, tandis que le Japon réagit un peu plus réticent. Il accepte, et après les premières batailles, même demande l'aide matérielle. Par contre, il rejette l'aide personnelle. Une des rares exceptions est une équipe de la Croix-Rouge allemande qui travaille dans un hôpital près de Tokyo. Là, les médecins en chef sont japonais et les Européens servent seulement comme soutien. Mais dans l'hôpital de la marine allemand à Yokohama, qui a également offert son aide, ce n'est pas beaucoup fréquenté. Il semble que les Japonais ne veulent pas confier leurs malades, leurs soldats aux spécialistes étrangers. En revanche, les Japonais reçoivent les canons allemands, les canons Krupp, avec les bras ouverts. Et en fin de compte, grâce à cette contribution à l'artillerie supérieure, le Japon a très probablement gagné la guerre d'après la loi mécanique des guerres. La Russie, donc je parle un peu sur les relations entre la Russie et l'Allemagne, à cette époque c'était des bonnes relations. La Russie est encore considérée comme une nation amie de l'Allemagne. On n'a pas oublié le support de Bismarck, qui était envoyé à Saint-Pétersbourg. On a un nombre de familles d'origine allemande qui appartient à la haute aristocratie russe. On a des millions de personnes d'origine allemande en Russie. la plupart d'entre eux étant de confession protestante. Et c'est pourquoi on a beaucoup de sources en allemand sur ce conflit. Et la communauté protestante, par exemple en Russie, finance tout un grand lazaret près du front. La plus grande mission est directement envoyée par la Croix-Rouge allemande, soit 30 personnes et 24 wagons. Elle se met en route par Harbin, ce qui était le centre des activités russes en Mandchourie, où elle installe un grand hôpital. Elle y reste 6 mois, mais il faut presque 3 mois de plus, 3 mois de plus pour y aller et revenir. Donc ils sont revenus après 9 mois, mais 3 mois, la moitié du temps en route, parce que c'était tellement compliqué, notamment en hiver. Je crois que c'est le conflit le plus lointain des guerres mondiales, notamment pour les sociétés de secours. Donc c'était un drame logistique, on peut s'imaginer. En Russie, toutes les missions et aussi tous les mouvements des troupes utilisent le chemin de fer, le transsibérien. Donc ça n'étonne pas que les participants ils portent des fourrures. Mais ils portent aussi de l'équipement tropical en même temps, parce que, comme dit le docteur Oettingen, parce que les étés en Mandchourie sont aussi chauds que les hivers sont froids. Donc aussi, le climat était vraiment extrême. L'expédition la plus aventureuse, oui, est peut-être celle de Elisabeth et Walter von Oettingen. Il s'agit d'une mission internationale, une mission russe, allemande, livlandoise. La Livonie, c'était un des pays ou un des provinces baltes de la Russie, avec beaucoup des Allemands encore. Elisabeth est infirmière à Berlin et son mari Walter est chirurgien, un élève du fameux médecin Ernst von Bergmann. Déjà en 1905, Elisabeth va publier un livre unter dem Roten Kreuz, sous la Croix-Rouge, sur ses aventures en Sibérie, en Mandchourie. Aussi, leur voyage dure très longtemps, 7 semaines pour y aller, et peut-être 5 semaines pour revenir. Au début, ils s'arrêtent à Riga, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, c'est pourquoi ça dure encore plus longtemps. Et aussi, il y a l'arrêt obligatoire à la frontière à cause de l'écartement des voies. L'expédition se compose de 5 médecins, 14 infirmières, 25 penseurs et quelques ouvriers, étudiantes et techniciens. Elle amène un appareil radiographique. À ce temps-là, c'était vraiment très, très moderne, très, très avancé. Je pense que peut-être seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg, on a eu des appareils pareils. Et donc maintenant, il emporte toute la machine en Sibérie. Aussi une chambre noire, un laboratoire bactériologique et une baraque transportable qui peut servir comme salle d'opération. Donc ils peuvent opérer comme une ambulance volante si ça devient nécessaire. Pour toutes les expéditions, le voyage avec le Transsibérien est une aventure. Donc dans tous les mémoires, il y a un grand chapitre sur le voyage avec le train, même si peut-être c'est une aventure un peu léthargique, forêt, pour plusieurs semaines. Je cite, « La seule chose qu'on est privé ici est le mouvement. Chaque jour se ressemble. Tôt le matin, nous commençons à prendre le thé et nous continuons cette occupation jusqu'au soir. » Écrit une autre sœur. Elisabeth est particulièrement fascinée par le mélange des gens, les physionomies, la typologie eurasienne en route. On l'assure qu'il y a maintenant moins des vols avec meurtre en route à cause de la présence militaire. Mais quand même, elle porte un revolver. Comme l'a dit Andrés, la tracée du chemin de fer n'était pas encore complète ou achevée. Il manque encore le passage autour du lac Baïkal, parce que en hiver, les passagers et aussi le chargement traversent le lac avec le lac gelé avec des luges. Et en été, on a eu une ferie gigantesque, grand comme un géant de mer, un vrai Léviathan qui peut ramasser 30 wagons du chemin de fer dans son ventre. À la grande déception des Oettingen, ils sont employés dans une ville à 2000 km derrière le front pour se soigner des convalescents. Donc juste après le lac Baïkal, ils doivent s'arrêter dans une petite ville. Mais rien n'est prêt, donc on n'est pas vraiment préparé et aussi il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour eux. Donc elle dit, du reste, il manque de tout. Et pour le chirurgien hautement qualifié, le disciple fameux d'Ernst Bergmann, pour tous ses instruments, l'appareil radiographique, toute l'équipe, il n'y a rien à faire, donc c'est très frustrant. Nous n'avons, et Elisabeth écrit aussi, nous n'avons pas beaucoup d'obligations mondaines. Donc, après des négations ténaces, ils sont finalement transférés vers l'Est, vers le front. Encore un peu plus proche, au moins. Donc, encore huit jours dans le taïga, huit jours dans le transsibérien. Ils assistent à une noce buriate, ils regardent les caravanes mongoles et le spectacle d'un opéra chinois. Donc le livre se lit comme un roman d'un voyage, parfois. Et finalement, couverts de sable et de suie, ils arrivent à Harbin. Et là, encore une fois, il faut attendre, parce qu'il y a déjà le grand hôpital allemand à Harbin, donc on n'a pas besoin d'une deuxième mission là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un épisode incroyable. Un jour, les Russes saisissent deux officiers japonais, deux espions, qui voudraient faire exploser une pont ferroviaire. Naturellement, les Japonais ont essayé de détruire ou de couper les lignes du chemin de fer. Donc, les deux officiers sont captivés et avant leur exécution, ils offrent leur dernier 1000 roubles à la Croix-Rouge. Et tout à coup, on doit se dépêcher. Toute l'équipe va vers l'Est encore une fois, chez une ville de garnison qui s'appelle Echo, et ils s'installent dans un hôpital militaire qui est moitié terminé. Il prépare cette baraque avec le salle d'opération et juste après 8 heures, quand le baraque est fini, le premier train avec 200 blessés arrive. Il faut stocker les provisions dans la cave à glace, c'est une cave souterraine dans le permafrost. Il faut s'installer, il faut faire quelques maisons, quelques quartiers pour le staff. Il faut s'occuper de ces 200 blessés. C'est un travail fébrile, un travail jour et nuit. Et ça, c'est un déroulement assez typique pour les missions de guerre. Il y a des semaines d'inactivité, d'un temps frustrant, on n'a rien à faire, on doit être passif. Et tout à coup, c'est le contraire, c'est une phase d'activité très intense. Et donc ça, c'est aussi, je pense, c'est du stress pour les équipes. Un des médecins, par exemple, l'écrit dans son report, « Ça semble paradoxe, mais chaque jour, nous attendons avec impatience le commencement de la bataille. » parce que l'inoccupation devient de plus en plus oppressante. Et la bataille, a lieu à Liaoyang, et après les trains lacérés à Harbin se succèdent sur une longueur de 9 km. 9 km de trains de lacérés après une seule bataille. À Ego, une opération suit l'autre. Aujourd'hui, raconte Elisabeth, aujourd'hui, mon mari a ouvert un crâne, deux fractures graves, un shrapnel dans un ventre et finalement une incision d'un ventre pour cause de typhus devient nécessaire. En plus, il traite les maladies infectieuses, la dysenterie, le scorbut, le typhus et choléra asiatica. Plusieurs soldats semi-invalides soutiennent l'équipe comme aide de bain, charpentier, cuisinier, cocher. Donc ce sont des soldats russes. En plus, ils ont à peu près 30 Chinois comme porteurs d'eau, repasseurs, bûcherons et closetmeister. Donc ça c'est maître de toilette. Parce qu'en Chine, tous les ouvriers, n'importe qu'ils font, tous les ouvriers, ils ont un titre, le titre de Shifu, ce qui est le maître. Soit le chauffeur, soit le tailleur, le cordonnier, ils sont tous des Shifu. Et évidemment, il y a même un Shifu des toilettes, un préposé aux latrines. Voilà la politesse du peuple chinois. Au début de l'hiver, l'ambulance est transférée vers Wukden, aujourd'hui Shenyang, la vieille ville impériale des Mandchous. Elle se trouve directement au front. Un sifflement, après un point noir dans l'air et la grêle crépite sur nous, raconte Walter von Oettingen. Vu que les baraques souterraines protègent mieux contre le gel, les sauveteurs deviennent des hommes de caverne. Toute l'alentour est piquetée par des taupières. L'ambulance est également transférée au sous-sol et aussi l'église. Pour Elisabeth, les services orthodoxes lui font penser aux premiers chrétiens dans les catacombes. L'ambulance souterraine reçoit un nombre de visiteurs étonnants, par exemple un général qui l'inspecte avec des béquilles, des correspondants de guerre et aussi des membres d'autres ambulances se suivent à un rythme rapide. Plusieurs attachés militaires rendent visite, entre autres l'attaché argentin. À peine arrivé, il tombe malade et doit être opéré d'urgence de l'appendicite. Il y a trois grandes fêtes dans la baraque, le Noël protestant, le Noël orthodoxe et l'anniversaire du grand maître Ernst von Bergmann. Donc c'était le Shifu médical et il a reçu une célébration selon pour lui. Pour toute l'équipe, cette baraque prosaïque, cette baraque primitive devient un refuge, devient leur Heimat, comme on dit en allemand. Au front, les deux armées se sont aussi enterrées dans les tranches que nous avons vues. Et parfois, elles se trouvent à une distance de seulement 1000 pas. Ce qui est un prélude gelé des combats de la Première Guerre mondiale. Les blessés sont déposés en masse, russes et japonais pêle-mêle, écrit Elisabeth. Elle estime que la bataille a fait plus de 60 000 blessés. À cause de la terre gelée, ils ne peuvent pas enterrer les morts et les empiler dans les tentes. Mais il n'y a pas assez de tentes pour empiler les morts. Quand la ville ne peut plus être tenue, ils doivent évacuer la ville et l'hôpital aussi, civière après civière. Quand ils quittent, la fanfare d'un régiment carélien, donc peut-être finlandais, carélien, joue Musiden, ce qui est une chanson populaire allemande, fortement sentimentale et mélancolique. Quelques infirmières restent à l'arrière pour transférer les blessés non transportables à la garde de la Croix-Rouge japonaise. Et il s'avère qu'un des médecins japonais et aussi un élève de Hansson Bergmann. Les blessés et prisonniers de guerre sont évacués par les Japonais par de nombreux bateaux hôpitaux, toutes marquées d'une croix rouge. L'évacuation de Port Arthur, vous avez dit, c'était peut-être l'exception, mais en général, cette guerre, jugée d'après la Convention, était une guerre assez régulière, assez civilisée. Les Japonais traitent les blessés hostiles avec une manière presque chevaleresque, on pourrait dire. Au moins, c'est ce que les sources allemandes ont dit. En Europe, retournons ici en Europe, les journaux parlent beaucoup de cette guerre au bout du monde. Bernhard Böttcher, par exemple, ne travaille pas seulement comme médecin dans une autre mission russe-allemande, mais aussi comme correspondant de guerre. Il fait cela d'une manière enthousiaste jusqu'au moment où il attrape le typhus et meurt en route à l'ambulance du couple Oettingen. Donc une petite tragédie en Sibérie. N'y a-t-il personne qui va chez les Japonais ? S'exclame Henri Dunant. Il a maintenant 76 ans. Il vit dans un sanatorium à Heiden, dans le canton d'Appenzell. Et comme toujours, il lit les journaux d'une manière passionnée. Il était vraiment un newshound. Et maintenant, j'ai l'occasion et l'honneur d'introduire un de mes favorites de la hagiographie du nom, une héroïne assez inconnue, la jeune postière Katharina Stotzenegger. Elle fait partie du sérail du nom, un sérail très petit et exclusif, comme vous le savez. Après un accident, elle est infirme, elle boite, et c'est pourquoi elle reste à l'hôpital de Heiden pour quelques semaines et devient la voisine de Dunant, qui s'exclame « N'y a-t-il personne qui va chez les Japonais ?» pour lui expliquer l'idée de la Croix-Rouge, et Katharina y va. Donc, d'ailleurs, c'était complètement inutile et superflu d'expliquer l'idée de la Croix-Rouge aux Japonais, parce qu'à ce temps-là, ils étaient les élèves modèles de l'idée. La Société nationale était déjà fondée en 1877, et c'était une société très développée, très nombreuse, plus de 1 million de membres, et très puissante aussi. Aussi parce qu'ils arrivent souvent les catastrophes naturelles dans l'archipel, donc on a eu besoin d'une telle structure, et notamment les femmes prennent leur devoir particulièrement sérieux et font face à leurs obligations même après le mariage. Katharina reste au Japon pendant 4 années. Elle aussi travaille comme correspondante, entre autres pour la Neue Zürcher Zeitung. Elle écrit aussi un livre. Et malgré son handicap, elle devient la première femme qui monte sur le Fujiyama. Donc voilà une des nombreuses femmes exceptionnelles et non conformistes dans les annales de la Croix-Rouge, propulsées par une curiosité immense, une volonté de faire et un cœur orgueilleux. Quand elle fait son rapport à Dunant, 4 ans plus tard, c'est une des dernières satisfactions pour l'inventeur de la Croix-Rouge. Pour vous donner encore un exemple des dimensions mondiales de ce conflit, à Punta Arenas, en Chili, en Terre du Feu, c'est un autre bout du monde, le comité local de la Croix-Rouge envoie un bateau qui traverse tout le Pacifique avec du matériel, de l'aide matérielle. Les membres de ce comité à Punta Arenas portent des noms typiquement chiliens. Siegfried Braun, Ulrike Braun, Silly Braun, Josefina Braun et Lucia Braun. Ce sont des Allemands émigrés au Chili qui ont enraciné les idéaux de la Croix-Rouge dans la Terre du Feu. Moi aussi, j'ai un épilogue, comme mon cher collègue. le transfert des milliers de prisonniers de guerre japonais en 1905. C'est étonnant qu'ils ne sont pas directement envoyés vers l'Est au Japon, mais contrairement, via le Transsibérien jusqu'à Hambourg et en bateau au Japon. Peut-être pour retarder le retour, je ne sais pas vraiment. Pendant l'attente à la frontière, il faut changer les trains, c'est encore une fois l'écartement des voies qui est responsable pour ça, donc il faut attendre peut-être un demi-jour. Pendant cette attente, c'est la Croix-Rouge, la colonne sanitaire de la Croix-Rouge de Königsberg qui s'occupe des soldats japonais. Et la même chose se passe à Berlin et à Hambourg, toujours avec une publicité remarquable. En même temps, les officiers et soldats russes sont envoyés dans les lieux de cure allemands. Et les plus hauts gradés s'installent peut-être à Cannes, à San Remo, donc dans des lieux encore plus mondaines. Et ils se sont battus au bout du monde, mais pour la remise en forme, ils préfèrent les établissements confortables de Baden-Baden, Bad Kissingen ou Teplitz. Heureux sont ceux qui ont survécu. Donc, je remercie Yvette pour corriger le manuscrit et je vous remercie pour votre attention. Merci.
Stéphane, merci pour ce moment où on s'est transporté quelques années en arrière à l'autre bout du monde. Merci à vous deux pour vos contributions passionnantes et enrichissantes. J'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle, des points de clarification. Oui.
Oui, merci pour ces deux présentations. J'ai plusieurs questions concernant la présentation d'Andrés Vera, qui était tout à fait passionnante, et surtout l'interprétation des psychiatres lors de cette guerre russo-japonaise. Car apparemment, ils donnent beaucoup d'importance aux émotions, alors que j'avais compris que les névroses des guerres, lors de la guerre civile américaine, alors on l'appelait à ce moment-là la nostalgie, et après, pendant la Première Guerre mondiale, quand on les appelait névroses des guerres, il y avait surtout des interprétations qui étaient associées aux lésions organiques. Et il me semble que c'est complètement nouveau, par rapport au conflit précédent et au conflit qui va avoir lieu juste après. Pourquoi les psychiatres, notamment les Français Babinski, ils ne sont pas pris en compte ce type d'explication, si est-ce que vous pouvez me donner une réponse. Après, si cela ne vous dérange pas, j'avais aussi des questions sur le rôle du simulateur, de cette figure qui est si intéressante. Et si vous savez s'ils ont développé des techniques pour discriminer qui était un simulateur et qui n'était pas un simulateur. Parce que moi, je sais qu'à la première, pendant la Grande Guerre, ils utilisaient des charges électriques pour savoir notamment si un soldat était un simulateur ou il ne souffrait pas des névroses de guerre. Et finalement, je voudrais savoir aussi si vous connaissez si l'électricité faisait partie de la thérapeutique, parce que vous avez nommé les repos, les travaux comme des méthodes pour essayer de récupérer ces soldats stressés ou névrosés pendant cette guerre, et si l'électricité faisait partie des méthodes thérapeutiques pour récupérer les soldats. Merci beaucoup.
Merci, il y a trois questions.
C'est pas parce que ça m'a beaucoup intéressé, en effet. Oui.
Entre la nostalgie, les simulateurs, l'électricité, il est là. Okay. Alors, on va répondre à cette question. Est-ce qu'il y aura d'autres questions sur ces questions spécifiques de nostalgie, de simulation et de thérapeutique par l'électricité?
Des émotions. Et le rôle des émotions disparaît après, parce que c'est le débat de la Première Guerre mondiale.
Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors,
André,
on vous donne la parole.
Selon ce que j'ai révisé, le rôle des émotions, c'était surtout postulé par l'école française qui a Pinel, Janet à la Salpêtrière, et aussi il avait une Charcot, c'était surtout. Mais beaucoup de psychiatres en Allemagne, je crois que c'est Oppenheim, c'est lui qui pensait que quand il avait un trauma psychique, il a une lésion organique. C'était Oppenheim, c'était dans l'école, et c'était à Berlin qu'il postulait ça. Après Freud, a essayé d'interpréter ça, que les traumas c'était l'inconscient. Il a dit. Oui, que c'était l'inconscient, après Freud se l'a interprété comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai sur ce sujet-là. Pour les simulateurs, je ne suis pas au courant qu'il y avait mais les plus rétributifs qui étaient les systèmes, les plus de simulateurs qu'il avait. L'Allemagne était complètement intolérante avec les simulateurs. Même l'Angleterre a fait, il y a un document qui était fait en 1920 avec les forces britanniques sur le shell shock, qu'il ne faut pas ignorer la souffrance de ceux qui sont un trauma de guerre, mais il faut avoir compte, il conclut, que la plupart des personnes qui viennent avec le shell shock sont des personnes qui veulent des compensations et qui ne sont pas aucun trauma. C'est la conclusion du document officiel britannique en 1920, vendu après la guerre mondiale. Ouais. Oui.
Ce qui est dur, c'est le rôle des émotions.
Oui.
Et à ce moment-là, alors qu'on oublie presque complètement pendant la grande guerre, ce rôle des émotions, on essaie d'expliquer par rapport aux lésions organiques, tout le temps on cherche Michel, par exemple,
oui,
dans la guerre civile américaine, il écrit tout un traité.
Il écrit tout un traité pour expliquer que les névroses, les nostalgiques à cette époque, c'était des soldats qui avaient une lésion organique à cause des balles. Et pendant la Première Guerre mondiale, toute la discussion, la discussion officielle aussi s'articule sur ces lésions organiques. Bien sûr, il y a la psychanalyse, mais la psychanalyse n'est pas tout à fait acceptée dans les socles de...
Oui, status quo.
Hein?
Oui.
Non, c'est pour oui. Ça que je me demande si vous avez...
Non, il est de base, ça continue. Quand tu vois un psychopathe, il y a des personnes qui disent que c'est génétique, que ça continue en forensique. Le rôle des maladies, la génésis des maladies mentales, que c'est la nature, c'est la nourriture, c'est multifactoriel.
Mais pas la nature, c'est bien c'est à cause d'une balle, à cause de la lutte guerrière, pas génétique, ou à cause du psychisme. C'est ça que c'était en train de nier. C'est pour ça qui m'étonne cette discussion autour des émotions, alors que le psychisme, c'était une entité qui n'était pas tout à fait acceptée par tous les psychiatres. C'était toujours, on essayait de chercher la lésion organique,
oui,
par une lésion morale, en souffrance morale.
Oui. Mais bon. En Russie, c'est passé de façon clandestine. C'était clandestin, c'était pas le status quo.
C'était
familiarisé, mais c'était complètement clandestin.
D'accord.
La psychiatrie russe,
c'était
complètement reproché un peu à la neurologie pour avoir un peu de légitimation et de crédibilité. Mais la psychiatrie, elle n'était pas développée, c'est-à-dire que ce psychiatre qui était là, c'était considéré inférieur à le reste du personnel médical. Ils sont de l'AED, mais c'était un peu les witch plus. Oui, il faisait un peu l'hypnose parce qu'il avait appris quelque chose, mais c'était pas... Même les psychiatres ne sont pas allés à Berlin, à les congrès, c'était des médecins qui ont fait leur témoignage, ils sont allés à la discussion. Mais bon, c'était...
Oui, mais ça explique pourquoi, oui, parce que c'était pas la vision officielle de...
Par rapport à la troisième question.
La deuxième qui est sur les simulateurs et la troisième sur...
Si vous connaissez des techniques avec l'électricité qui
a été utilisée. Pas au courant. C'est vrai que la médecine soviétique, oui, ils l'ont utilisée, mais pas avant ça, à l'époque des Tsars, je crois pas. Mais oui, à la Première Guerre mondiale, je crois que ça a commencé la thérapie.
Oui, parce que c'était pour faire plus masculine.
Oui.
D'accord. Merci.
Merci, Andrés. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Andrés ou pour Stéphane?
Peut-être que je peux ajouter une anecdote sur les simulantes.
Oui.
Une anecdote de la Première Guerre mondiale. On a eu les gaz et on les a dit, quand tu ne veux pas te battre, mm-hmm, on te fait un penseur, on te fait un porteur sanitaire, par exemple, parce que c'était considéré plus dangereux que la vie d'un soldat.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon...
il n'y a pas de questions, je vais en poser moi. J'aimerais savoir, Andrés, dans tout ce travail sur l'argument qui tournait autour des dilemmes éthiques, vous avez beaucoup travaillé. On comprend, d'après votre présentation et d'après la question, que le congrès de Berlin en 1908 a été un tournant dans l'entrée de la psychanalyse en Russie. C'est fort intéressant de réaliser ça. Quel a été l'élément de surprise dans votre recherche, dans toute votre intuition, votre paradigme de travail? Qu'est-ce que, à travers cette recherche, vous avez découvert qui vous a surpris?
C'est ça, cette tolérance que je m'avais pas attendu, que, parce qu'on attendait surtout sur la Russie, qu'à l'époque du Tsar c'était un pays assez arriéré. Il s'agit que les pays et même les services britanniques qui ont fait tout un rapport, ils ont même fait attention avec l'humanité avec laquelle les unités à Harbin et de traiter les malades. J'étais surpris par ça. Je m'attendais à une chose de plus rudimentaire. Et c'est surtout ce qui s'est passé à Port-Arthur, qui sont plus en sérieux les conventions de Genève, ils sont complètement humanisés et améliorés les questions. Parce que, oui. Ils voulaient, soit le Japon, soit un peu la Russie, mais améliorer la crédibilité par rapport à l'extérieur.
J'ai une question pour Stéphane. Vous nous avez fait vivre des voyages passionnants. On s'est vu quelques instants au bout du monde, en bateau, en train, à pied, dans le froid, dans l'été. Ce conflit le plus lointain des guerres mondiales, tel que vous nous l'avez décrit, a mis en évidence certaines choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui. L'inoccupation est oppressante, l'attente, l'action, etc. Qu'est-ce qui, dans votre recherche, vous a le plus amusé?
Ah, peut-être le closet master, le chiffon de toilette. et aussi un autre épisode, il y a un ouvrier avec l'expédition allemande qui vient de la Russie, je pense, mais peut-être parle l'allemand. Et il chante pendant son travail comme charpentier, il chante des arias de Tristan et Isolde en Mandjourie. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est surréal.
Oui, Roger, on va vous donner un micro pour s'assurer que ce soit bien enregistré.
Ma question s'adresse à Stéphane. Cette mission de l'autre côté du monde, en entendant ton récit, on a l'impression que c'est l'aventure, pas tout à fait du tourisme, mais un grand exotisme. Est-ce qu'une mission de ce genre, quand elle est de retour en Allemagne, elle produit un rapport? Est-ce que la Croix-Rouge allemande ou les autorités sanitaires allemandes en tirent des enseignements? On est en droit de se poser la question de telles missions qui devaient engager quand même beaucoup de monde, beaucoup de risques, beaucoup d'argent. Quelle finalité est-ce qu'elles ont? Quel but elle a?
Oui, je pense que c'était l'époque impérialiste, l'époque coloniale, et donc un des buts c'était de démontrer que l'Allemagne est aussi un pouvoir d'une dimension mondiale, ou au moins un grand pouvoir européen qui peut réagir dans tous les conflits du monde, soit en Afrique du Sud, soit en Sibérie. Et donc, peut-être notamment du côté allemand, plus que en France ou en Angleterre, il y a ce côté démonstratif d'une mission d'outre-mer. Et ces livres, après toutes les expéditions, plusieurs livres étaient publiés et c'était des grands succès, et c'était intéressant. Il y a une demande pour ces aventures, notamment en Afrique du Sud. Donc ça devient presque un genre, on pourrait dire, le genre de l'expédition humanitaire avant la Première Guerre mondiale. Donc le côté aventurier était plus fort que le côté militaire.
Est-ce qu'après
après, oui, madame, on va vous donner un micro pour pouvoir enregistrer. Non, mais pour pouvoir enregistrer les questions, c'est gentil. Merci Stéphane.
J'aurais bien voulu savoir quelle était la formation des femmes qui partaient dans ces expéditions. Elles étaient infirmières ou elles étaient simplement des caritatives, comme on disait à l'époque? Qu'elles avaient une formation ou bien elles partaient par idéal ou bien... J'aurais juste voulu savoir ceci, puisqu'elles étaient dans les conflits.
C'était des volontaires de la Croix-Rouge.
C'était déjà des volontaires de la Croix-Rouge, donc il y avait des formations. Oui, d'accord, merci.
Oui, en cas des Allemands, on peut dire que la plupart d'elles a reçu une formation assez sérieuse pendant plusieurs années. On a fait une sélection. On a eu beaucoup des candidates et on a vraiment très soigneusement sélectionné les femmes et les hommes aussi. Donc c'était un honneur de participer, oui.
J'aimerais aussi juste dire deux mots au sujet de cette fameuse Katharina Sturzenegger qui est allée au Japon, parce que Stéphane a eu raison de l'évoquer. C'est complètement fantastique. Elle était buraliste postale, n'est-ce pas, dans un petit village tout près de Haydn. Et elle a eu un accident. Elle était soignée à l'hôpital de Haydn, dans le même que celui où Dunant se trouvait. Et puis, elle avait remarqué par ses collègues que à peu près la moitié de la correspondance qui arrivait dans la région était destinée à Henri Dunant, qui était une star et qui avait un courrier absolument extraordinaire. Elle est entrée dans le cercle des très rares intimes d'Henri Dunant et elle part en mission. Alors, c'est aussi assez intéressant de voir qu'on a une personne qui a en fait une invalidité physique. Et puis, comme par hasard, toute invalide physique qu'elle est, elle arrive à partir de l'autre côté du monde et y rester un long moment, alors que les conditions de voyage étaient difficiles. Donc la notion d'infirmité, on peut aussi en discuter. Elle publie un récit de voyage qui est lu, qui était très documenté aussi photographiquement. Et puis, l'autre chose qui nous intéresse, en tout cas dans les études d'Henri Dunant, c'est qu'elle va écrire la première biographie d'Henri Dunant. Qui va paraître très peu de temps après la mort d'Henri Dunant. Et la première biographie a été écrite en allemand par une buraliste postale, une aventurière, une femme extrêmement étonnante et séduisante, d'une autre de ces personnalités de l'univers Croix-Rouge. On en a vu plusieurs, mais elle aussi fait partie de ces cas typiques. Elle était jeune, je ne peux pas le dire, mais elle a entre 20 et 30 ans. À ce moment-là, oui, elle est jeune.
Merci Roger pour ce complément d'information qui nous permet de deviner que cette femme a eu un destin incroyable et une détermination incroyable aussi. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ou questions? Peut-être avant de conclure, j'aimerais dire, dans cette relation russo-japonaise en matière de société de Croix-Rouge, dans le drame que le Japon a connu il n'y a pas si longtemps avec Fukushima, le président de la Croix-Rouge japonaise a eu pour M. Tadateru Konoe a eu pour immédiate réaction de contacter la Croix-Rouge russe pour savoir si leur expérience malheureuse et récente de Tchernobyl pouvait les aider, eux, au Japon, sur les conséquences du drame de Fukushima. Donc, l'histoire continue dans les conflits, en dehors des conflits, avec toute notre humanité. Donc, c'est une belle aventure. Alors, je vous déclare tous les deux chifous. Chifous du traitement des post-traumas pendant la guerre russo-japonaise et chifous de la problématique des médecins et infirmières allemandes dans la guerre russo-japonaise. Merci Chifou de nous avoir fait découvrir le temps de votre contribution une autre dimension de la dramatique situation russo-japonaise à cette époque. Je propose qu'on lève les travaux pour un petit quart d'heure de pause et je vous retrouve donc à 4h moins 5 pour commencer les travaux de la deuxième partie de l'après-midi.